vie-service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Okapi Service. Aujourd'hui, votre magazine s'intéresse au phénomène exode rural en République démocratique du Congo. De plus en plus, des jeunes Congolais quittent les zones rurales pour venir s'implanter dans les zones urbaines en quête d'une vie meilleure. Alors, on a vu des mouvements des jeunes, par exemple, quitter les Kasaï pour venir à Kinshasa, pour aller à Lubumbashi, des jeunes qui quittent certains milieux ruraux pour aller, par exemple, à Goma, à Bukavu, à Mbandaka et ailleurs. Alors, le chômage, la pauvreté serait la cause de cette, serait parmi les causes de cette migration massive des jeunes vers les grandes villes de la République démocratique du Congo, selon les services nationaux d'encadrement et des réclassements de la jeunesse rurale, Sénégère en sigle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper ce phénomène ou réduire sensiblement l'exode rural en République démocratique du Congo? On en parle dans cette émission avec notre invité. Il s'agit du professeur Barthélémy Banda Kalambay. Il est démographe. Des questions et préoccupations, n'attendez pas les dernières minutes. Appelez déjà au 081-890-63-94. Professeur, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Alors, en tant que démographe, comment vous définissez ce phénomène qu'on appelle l'exode rural?
Eh bien, merci pour l'invitation. L'exode rural, en des termes très très simples, c'est le fait que les habitants du milieu rural changent leur résidence pour se rendre dans les milieux urbains et y rester y vivre. Très simplement, c'est ça. Il s'agit simplement d'une migration. Une migration qui part du milieu rural vers le milieu
urbain. Vers les centres urbains. Et quelles sont les causes de cette migration?
J'aime bien le dire, la première cause, c'est un problème de gouvernance. C'est un problème de planification du développement. Ça, c'est la première cause. Parce que, pourquoi est-ce que les gens décident de quitter là où ils vivent habituellement pour pouvoir aller en ville? Ils y vont pour pouvoir chercher le mieux-être. Ils estiment que là où ils sont, ils vivent dans de mauvaises conditions. Et ils peuvent mieux vivre dans là où ils veulent aller. Ici, c'est le milieu urbain. Je parle de la gouvernance, de la planification, du développement. C'est parce que certains y vont, les tout petits, les plus jeunes, pour des raisons scolaires, raisons d'études. Mais d'autres y vont pour chercher du travail.
On a vu, par exemple, il y a quelques années, beaucoup de jeunes quittaient les Kasaï pour venir à Kinshasa lorsque l'Amiba, ça marchait plus avec l'Amiba. Bon, ils sont venus à Kinshasa et on a vu apparaître ces phénomènes qu'on appelle Wewa ici à Kinshasa.
Ben justement, c'est un problème de développement, comme je disais tout à l'heure. Lorsque l'Amiba fonctionnait correctement bien, autour de l'Amiba, il y avait plusieurs activités. Et lorsque l'Amiba était par terre, ou est par terre actuellement, il est normal que les jeunes gens qui travaillaient dans les mines et qui alimentaient les trafiquants, les commerçants autour de la ville de Mbujimayi, ces jeunes gens n'avaient plus du travail. Et la solution était de quitter et aller chercher le mieux-être.
Certains sont partis à Lubumbashi, d'autres sont venus à Kinshasa.
Et justement. Et le fait de partir de Mbujimayi ou de Kananga pour Lubumbashi ou pour Kinshasa, ça a privé la force, les ressources humaines qui aidaient la population dans ces deux villes. Et arrivé à Kinshasa, il devrait créer de l'emploi. Et c'est le phénomène Wewa à Kinshasa ou Maseba à Lubumbashi.
On le voit aussi, même si vous allez à Goma, c'est pareil. Il y a des gens qui quittent Rutshuru et d'autres localités pour venir s'installer à Goma, Bukavu. En fait, c'est partout à travers la
région. Ben justement, c'est, du côté de l'Est, c'est principalement à cause de l'insécurité qui règne dans les milieux ruraux. Et donc, il est normal qu'il n'y a pas que maintenant les jeunes gens. À l'Est, c'est plutôt presque tout le monde, et même les plus âgés qui peuvent se déplacer, ils se déplacent pour être à l'abri de cette insécurité. Et donc,
est-ce qu'il faut parler aussi de l'exode rural dans ces cas-là?
Oui, ça s'appelle l'exode rural, mais ici, la cause, c'est l'insécurité. Mmh. En fait, l'exode rural, comme je disais tout à l'heure, c'est le changement de résidence du milieu rural vers le milieu urbain.
Alors, vous étiez en train d'énumérer les causes. Vous avez dit la première cause, c'est un problème de gouvernance, un manque de planification et de développement. Qu'est-ce que cela veut dire?
Oui, terre à terre, revenons sur l'exemple de Mbujimayi, où il y avait l'économie, en d'autres termes, était florissante. Entre guillemets florissante pendant les années où l'AMIBA était au top et les gens n'avaient pas besoin de venir à Kinshasa. Vers les années 80, ne venaient à Kinshasa principalement que ceux qui venaient vendre leurs diamants. Mais toutes les autres couches de la population n'avaient pas envie de venir à Kinshasa. Et à l'époque, acheter une parcelle à Kinshasa était considéré comme une perte pour des gens qui venaient du Kassai de manière générale. Et aujourd'hui, parce que rien ne marche, je vais dire rien ne marche.
L'AMIBA est par terre, oui. Presque par terre.
Je parle de la gouvernance, je parle de la planification du développement. Après les années, après la guerre de 1997, au début des années 2000, rien ne marchait parce que l'AMIBA était, disons, l'équilibre de l'AMIBA n'existait plus et la population était obligée de se déplacer. Il faut ajouter également la dégradation du chemin de fer et qui a empêché les commerçants qui approvisionnaient les Kassai à partir du Katanga, avec
la SNCC,
avec la dégradation de la SNCC, les commerçants étaient obligés de quitter le Kassai pour aller dans les autres provinces, principalement Kinshasa et Lubumbashi, où ils pouvaient facilement avoir leurs marchandises qui venaient de l'Asie et les vendre, parce que il y a eu des cas où des gens ont perdu leurs marchandises parce que les trains étaient bloqués pendant 8 mois dans le Katanga. Eh bien, ça, c'est, je reviens encore sur la planification de développement. Si on avait bien pensé sur la situation de la SNCC, la situation de l'AMIBA, et créer d'autres emplois dans cette zone-là, les gens n'émigreraient pas vers Kinshasa ou vers le Katanga. Eh bien, donc, le plus grand problème ici, c'est le problème de la planification du développement économique.
Comment est-ce qu'on planifie les développements économiques, professeur?
La première des choses, c'est de savoir d'abord combien nous sommes et qui nous sommes. Je reviens encore sur le recensement.
Ah, le recensement.
Oui. Au Congo, aujourd'hui, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas qui est qui. Ça, c'est l'identification de la population. Il faut d'abord rappeler que vers les années 1958, aux années 1958, il n'y avait que à peine 1 600 000 Congolais qui vivaient en milieu urbain. Et la grande majorité était en milieu rural. En 2014, une étude qui a été menée par ONU Habitat montre que en 2014, nous étions 32 millions à être en milieu urbain. Et en 2024,
c'est passé de 1 million, c'est ça?
1 600 000 à 32 millions. En 2034, c'est-à-dire de 20 ans, de 2014 à 2034, nous serons autour de 50 millions en milieu urbain.
50 millions.
50 millions au Congo. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'on a ce genre de chiffres, on a ce genre d'estimation, on doit prendre des dispositions. Les dispositions, c'est quoi? C'est créer des bonnes conditions de vie en milieu rural pour éviter que les gens courent vers le milieu urbain. Et ça, c'est la planification du développement. Ça, c'est la planification économique. Lorsque, comme aujourd'hui, avec le gouvernement qui va venir de Félix-Antoine Tshisekedi, vous avez vu qu'il y a, dans les cadres de 100 jours, il y a beaucoup de travaux qui sont entrepris principalement
à travers le pays.
Et principalement en milieu urbain. Et il est en train de se démener pour pouvoir arranger l'infrastructure routière et ferroviaire. Dès que cela est fait et qu'on n'a pas arrangé les conditions de vie en milieu rural, cela va encore drainer la population vers les milieux urbains.
Bien, je reviens à vous tout à l'heure, professeur. Nous parlons de l'exode rural en République démocratique du Congo. Comment lutter contre ces phénomènes? Dieudonné nous appelle depuis Yaru. Pierrot Pagna est à Lubumbashi. Vous avez des questions et préoccupations? Appelez au 081 890 63 94.
Parité, autonomisation, violence basée sur le genre, la vie en famille, les valeurs familiales et toutes les questions liées au développement de l'homme et de la femme, c'est dans Parité et Famille. Votre émission vous apprend également comment vivre une vie harmonieuse en famille et vous propose des astuces pour gérer les problèmes des couples, relever les défis de l'éducation des enfants et le bien-être familial. Parité et Famille, votre émission qui traite des rapports hommes et femmes dans la société. Tous les mercredis à partir de 9h15 et 20h30, aussi le vendredi à 13h30.
Bien, nous parlons de comment lutter contre l'exode rural aujourd'hui dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Dieudonné nous appelle depuis Yaru et Pierrot Pagna est à Lubumbashi. Vous voulez également intervenir dans cette émission, composez le 081 890 63 94. Dieudonné, bonjour.
Bonjour Radio Okapi, c'est bien Dieudonné Tchombe à Paris Territoire d'Arou, président de Kambi. D'après moi, il y a quelques accords que j'espère encore augmenter à ce que notre vérité vient de Dieu. Nous avons aussi la paresse, la pauvreté, nous avons aussi le chômage, même le réseau sanitaire pour les soins et autres de violence. Il y a aussi le réseau sportif, même le réseau sécuritaire, le réseau économique, même le réseau étudiatif, même d'autres jeunes, j'ai fouillé les travaux, chapitre dans le milieu urbain, même d'autres parcs, réseau de recherche scientifique. Alors, comme remède, je demanderais peut-être au gouvernement actuel d'instaurer un système, de mettre une politique vraiment à jeu, à peine d'occuper les jeunes, qu'on puisse créer des travaux, que les jeunes ne puissent pas chômer. Parce que dans le milieu général, trouver le désemploi devient très, très compliqué. Les jeunes qui demeurent actuellement, qui sont fils, vieux, bien sortis, on ne sait pas où aller travailler. Par exemple, pour laquelle beaucoup de gens fuient vers le milieu urbain. Il faut aussi que le gouvernement fasse pour indiquer certains milieux rurales à arriver plus tôt.
Mais Dieudonné, Dieudonné, oui? et dites-nous là-bas, à Arou, quelle est la situation? Beaucoup de jeunes gens quittent Arou pour aller vivre à Bunia ou à Kisangani ou venir à Kinshasa.
Pour les autres sportifs, même pour les autres travaux, ils cherchent à veiller, il n'y en a pas là-bas, beaucoup sont méfiants.
D'accord.
Vous le savez, même le milieu rural est dépourvu de beaucoup de réalités. Oui. Et ce milieu joue négativement sur l'individu. Il faudrait vraiment sortir le gouvernement partout pour appeler les jeunes gens.
D'accord, merci. Pierrot Pagna, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Tati, bonjour à l'invité et bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais, félicitations.
Pierrot, merci beaucoup, merci pour tout cela. Alors revenons à notre sujet, nous parlons de l'exode rural. Et quelles sont vos préoccupations par rapport à cette thématique?
Merci pour la finance et la thématique qui est tellement bien placée aujourd'hui parce que ça nous donne aussi quelques idées pour aller très bien dans cette thématique-là. Alors, j'aimerais dire d'abord de quelques expériences que nous avons eues. Je trouve que, d'abord, le but du rural, pour moi, peut-être, c'est compte tenu de l'économie et de la gestion politique de ce pays qui ne nous permet pas de rester dans nos villes ou dans nos cités. Comme l'a dit l'invité récemment là, j'aimerais d'abord vous donner mon expérience. J'ai étudié à Kabinda, ma ville natale. Comme tout, il y a besoin d'avoir le changement, je cherche l'emploi, mais je trouve le travail. Je commence à faire mon stage à l'hôpital de Kabinda parce que je suis infirme. Je trouve là-bas, mais la rémunération à cette époque-là ne me permet pas de continuer. Je vois donc, je dois aller d'abord au Golfe d'Europe, je dois continuer avec le Viti, mais je trouve que non, je dois d'abord aller à Kalemi. Alors à Kalemi, je trouve là-bas un emploi, on commence à me payer dans un petit centre qui est moins que cet hôpital-là, mais qui me donne beaucoup d'argent, que c'est là où j'étais en train de travailler.
Oui.
C'est-à-dire, je dois être obligé de faire ça, parce que d'abord, je ne sais.
Oui, Pierrot, si je comprends bien, vous étiez à Cabinda, vous avez quitté Cabinda pour aller à Calémi, en tant qu'infirmier, vous avez trouvé quand même un travail rémunérateur, et maintenant, vous avez quitté Calémi pour vous installer désormais à Lubumbashi.
Oui, je m'installe maintenant à Lubumbashi, c'est ce que je dis. Alors, quand j'appelle un collègue qui travaille à partir de Calémi, là, donc quand il quitte aussi là-bas, il m'appelle que non, contrairement à ce que nous avons comme là-bas, alors, si tu t'engages dans tes propres projets, peut-être que ça ira mieux que là où tu es. J'étais obligé de lui suivre, pourquoi? C'est la concurrence. Il est en train de faire, et ce que moi je suis en train de faire, je me dis que non, si je pars aussi là-bas,
d'accord,
j'aurai quelque chose pour
faire. D'accord.
Je suis en train de quitter. Là, c'est un premier point que je voulais.
Alors, rapidement, vous n'avez pas beaucoup de temps. Ouais. Quelle est la question que vous adressez à l'invité rapidement?
Merci. Le deuxième point, c'est quoi? Nous sommes ici à Lubumbashi. Quelles sont les difficultés? Vous savez, Lubumbashi, même la tomate est importée de la Zambie. Or, si vous voyez l'handicap ici dans le Grand Katanga, que toute la population est obligée de rester dans de grandes villes. Or, ce qui ne se fait pas chez nous au Kassai, c'est quoi? Parce que nous devons vivre comme en Europe, nous devons vivre.
D'accord. Merci Pierrot.
Mais pas comme ça.
Merci Pierrot, depuis Lubumbashi, professeur, vous avez suivi les différentes préoccupations. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Oui, Dieudonné à Arou a relevé un problème. Le plus grand problème, c'est le chômage des jeunes. Il n'y a pas d'emploi de ce côté-là. Et justement, pour pouvoir bloquer les jeunes dans leur milieu de vie, il faut créer effectivement
des emplois.
Il faut non seulement des emplois, mais pour ceux qui doivent aller étudier, il faut créer également des établissements d'enseignement scolaire et d'enseignement supérieur universitaire qui sont de bonne qualité. Le gouvernement... Le gouvernement passé pendant le règne du président Kabila, ce gouvernement a fait un effort pour pouvoir créer des établissements d'enseignement supérieur, par exemple dans presque toutes les provinces. On peut retrouver presque toutes les filières aujourd'hui, alors qu'à l'époque, les jeunes gens étaient obligés d'aller dans les grandes universités qui se trouvaient dans les trois provinces, en fait dans les trois grandes.
Il y a eu des extensions des grandes universités dans ces milieux-là.
Et ça, c'était une des très bonnes mesures pour pouvoir retenir, par exemple, les enfants qui voulaient aller dans d'autres villes pour pouvoir étudier. Mais seulement, cette politique n'a pas été bien appliquée dans la mesure où on a créé des établissements juste pour créer.
Il n'y a pas des enseignants.
Il n'y a pas d'équipement, il n'y a rien. Ce qui fait que pour des parents qui savent que les établissements qui ont été créés dans leur ville, là où ils se trouvent, ne sont vraiment pas viables, ces parents sont obligés également de renvoyer
leurs enfants dans les grands
centres. Villes.
Oui.
Pour revenir sur ce que disait Pierrot maintenant, il vous a dit qu'il était à Cabinda et puis probablement qu'il y a quelqu'un, un membre de famille qui lui a dit qu'avec votre profil, si vous allez à Calémi, vous allez vous retrouver. Effectivement, il est arrivé à Calémi, il a trouvé que les conditions salariales sont bonnes par rapport à ce qu'il avait à Calémi. Et voilà, à Cabinda, et puis de Calémi, il n'était toujours pas content. Quelqu'un lui a également dit que si vous allez vers Lubumbashi, vous allez trouver mieux. Et donc, vous voyez qu'il y a eu une sorte de transition de Cabinda vers Calémi, de Calémi vers Lubumbashi. Et ça, c'est en quelque sorte la politique qui avait été créée au début des années 80, où il y avait des villes secondaires. La cité de Inkissi a été développée dans ce sens-là, pour pouvoir retenir les migrants qui voulaient se diriger directement vers Kinshasa. Et la même chose pour Kikwit. Donc il y avait en quelque sorte des cités de transit. Et en voulant venir directement à Kinshasa, on peut transiter par exemple à Inkissi et y rester. Donc ça va empêcher cette vague. Ce qui n'a pas été le cas pour les deux Kassai. Pour les deux Kassai, il n'y a pas eu de transit. Les gens quittaient directement à Mbujimayi pour Kinshasa et même par moto. Mm. Et arrivé à Kinshasa, voilà, on a ce qu'on a aujourd'hui. La même chose pour le Katanga.
Donc, Kinshasa, aujourd'hui, on est autour de combien? On parle souvent de 11 millions d'habitants aujourd'hui, professeur.
Une très bonne question aujourd'hui. Et oui. À cette question, je suis démographe. J'ai été pendant 6 ans chef de département de démographie universitaire de Kinshasa. Je ne sais pas vous dire combien nous sommes. Et même le chef de l'État ne saura pas avoir ce chiffre. C'est ça le problème.
Ce ne sont que des estimations.
Ce sont des estimations qui ne valent plus la peine d'être faites. Parce que nous sommes au-delà de ce qui est, on va dire, scientifiquement acceptable. Mmh. On est en train de faire de projections sur projections. Et ce qui est bizarre, chaque document que vous pouvez prendre, même les documents qui sont produits par les services de l'État, oui. Chaque document a son chiffre.
Donc,
chacun a son chiffre pour la population. Et oui. Je parlais effectivement de la gouvernance. Oui. L'actuel gouverneur, tous les gouverneurs de nos provinces, qu'est-ce qu'ils vont faire et pour qui en termes de planification et de développement? Mmh. Ils vont, tout à l'heure, on a suivi que dans les Tanganyika, pratiquement 60 000 enfants n'ont pas été à l'école oui. ou sont en dehors de l'école. Eh bien, où est-ce qu'ils ont eu ces chiffres-là? Si on faisait le recensement, on aurait plus que ça. Et donc, ça pose déjà un problème en termes de planification et de développement.
Personne donc, pour planifier le développement, il faut d'abord connaître le nombre des habitants
dans chaque
milieu.
Tout ce qu'on fait, c'est pour le mieux-être de la population, c'est pour le mieux-être du peuple. Et donc, si on ne connaît même pas qui, combien ils sont, en termes d'école, si vous suivez les amis qui viennent, ils sont des gouvernements qui sont sortis, ils vont vous dire qu'ils ont construit autant d'écoles. Mais autant d'écoles pour combien d'enfants et pour quels enfants? Et donc, en termes, par exemple, de cartographie scolaire, vous allez trouver une école à côté d'une autre. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une grande fécondité à cet endroit-là pour qu'il y ait autant d'écoles qui sont côte à côte. Eh bien, c'est ça la planification dont je parle. Mmh. Et la même chose par rapport à l'exode rural.
D'accord. Professeur, on va accueillir trois autres auditeurs. Kachai est à Kanyoka, Albert Mwananga de Kananga. Rémi, vous êtes à Kisangani. Nous parlons de l'exode rural. Comment lutter contre ce phénomène? Kachai de Kanyoka, bonjour. Quelle est votre question? Quelle est la question que vous adressez à l'invité?
Oui, bonjour, monsieur. Je dis Daniel Kachama et bonjour à l'éminent professeur. Monsieur, je dis, nous sommes intéressés par les sujets du jour. Pourquoi? Parce que nous vivons au village. Nous avons les soucis de quitter les villages pour aller aussi nous installer au centre-ville de Kananga.
Kachai, vous voulez quitter Kanyoka? Pourquoi? Pourquoi
mais
vous voulez?
Mais les conditions de vie sont tellement villageoises.
Alors, qu'est-ce que cela veut dire?
C'est-à-dire que l'environnement au sein duquel je vis est entouré par les villageois. Alors nous tournons tout autour d'une même idée. Nous ne savons pas partager l'idée avec ceux qui vivent parfois au centre-ville, qui ont d'autres réalités de la vie. Alors pour cela, moi j'ai trouvé qu'il faudrait que j'aille là où il y a parfois des gens qui vivent en étage, qui ont de l'eau, de la régie des eaux, qui vivent avec les courants de la SNEL, qui parfois marchent au trottoir et les véhicules sur la chaussée. Mais ici, chez nous, la route n'est pas bitumée. Nous vivons vraiment naturellement. Alors, je voulais demander à l'invité. Beaucoup d'amis avec qui on a vécu ont quitté le village, ils sont partis ailleurs. Maintenant, quand ils sont partis ailleurs, ils ne se sont pas développés. Ils pensaient peut-être que c'est ailleurs où ils allaient trouver les conditions de vie normales adaptées à ce qu'ils prétendaient. Maintenant, ils n'ont pas eu quelque chose. Ils continuent à vivre comme ils étaient au village. Et ils ont quitté le village où il y a des espaces qu'ils pouvaient construire, ils n'ont pas construit, mais ils sont partis au centre-ville pour aller louer des bicoques, des huttes. Parfois, c'est là où il y a de l'eau qui coule en difficulté. Là. Maintenant, je voulais demander à l'invité, par rapport aux études, il y a une université, Notre-Dame du Kasaï, qui a été construite au village, l'ISES aussi, Institut d'études sociales, pour permettre aux villageois, au lieu de se rendre sur la ville, d'étudier à l'université construite au village. Les écoles primaires, secondaires, il y a, mais les villageois n'étudient pas à l'école primaire. Bon, il y a trois écoles primaires. Aux écoles primaires du village, ils préfèrent toujours envoyer leurs enfants en ville. Et de deux, même à l'université, là, beaucoup d'enfants n'étudie pas à l'université qui est au village. Il préfère
aller dans les grands centres-villes. Merci pour cette...
Je voulais demander à l'invité maintenant comment il peut nous demander comment créer les conditions de vie avec l'actuel gouverneur Kabuya ici? Qu'est-ce qu'il peut aussi faire pour que les villageois des villages environnants ne puissent pas convoiter la vie en ville, mais qu'ils se contentent de la vie qu'ils passent au village?
Merci. Albert Mwananga, vous êtes à Kananga. Bonjour. Quelle est votre question? Soyez bref, rapidement. Bonjour.
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à notre invité. Oui, je pense bien que la question, j'aimerais un peu soulever quand même un petit article dans la Constitution qui permet à tout Congolais de se déplacer, aussi d'habiter ou de vivre là où il veut. Donc il peut être à Lubumbashi, à Kinshasa, à Bandundu, il doit se retrouver, il doit se dire que donc, tout Congolais doit où il se trouve est chez soi. Donc moi, je ne pense pas que ce serait vraiment possible d'envisager un mécanisme de pouvoir éradiquer ou bien mettre fin à ça, parce que nous sommes Congolais, ça ne peut pas vraiment empêcher...
D'accord, donc nous sommes Congolais, on peut aller là où on veut vivre, donc rien ne peut nous empêcher. Merci. Rémi, vous êtes... rien ne doit nous empêcher. Rémi, vous êtes à Kisangani, bonjour, quelle est votre question rapidement?
Bonjour à l'invité. La thématique d'aujourd'hui, là, vraiment, je suis content de y participer. Les gouvernements doivent prendre au sérieux ces problèmes. Chez nous, au village, les gens vivaient parfois à l'agriculture, l'élevage, la pêche et la cueillette. Aujourd'hui, au village, là, les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Avec l'exploitation forestière, des sociétés multinationales, au village là, je viens à peine d'arriver, j'étais là.
Vous venez de quel village, Rémi?
Oui, les gens n'ont même pas là où on peut cultiver les champs. Ils n'ont pas les routes à desserte agricole. Et les jeunes aujourd'hui là veulent maintenant et savourer la nouvelle technologie. Il y a des villages, vous pouvez passer plus de 200, 500 kilomètres, il n'y a même pas les réseaux téléphoniques. Et donc, et tout le monde est envie maintenant de venir vivre au village, en ville. Et donc, c'est un problème sérieux dans nos villages aujourd'hui. Le gouvernement doit prendre au sérieux, améliorer les routes, les desserts agricoles et chercher même à éduquer les villageois et même de pratiquer l'élevage. Parce que avec la déforestation, l'exploitation forestière aujourd'hui dans nos villages, il n'y a même pas de gibier. Déjà mangeait autrefois. Il n'y a pas d'élevage. Même s'ils faisaient l'élevage, ces élevages-là, ils n'ont pas de médicaments parce qu'il y a souvent des épidémies, les bêtes meurent comme ça, les poules, tout ça. Et les villageois vivent difficilement aujourd'hui. Et en ville, au moins, on peut trouver tout, on peut bien manger. Donc,
d'accord.
Les villageois veulent maintenant quitter le village pour venir vivre en ville.
Oui.
Parce que les conditions deviennent de plus en plus difficiles.
Alors, Rémi, dites-nous, vous avez quitté quel village pour venir vous installer à Kisangani?
Non, j'ai dit ceci. Moi, je suis à Kisangani.
D'accord.
Je suis allé au village visiter ma famille il y a plus de 6 ans.
D'accord.
Je viens à peine d'arriver il y a quelques semaines.
D'accord.
Ce que j'ai trouvé là-bas, c'est difficile.
C'est difficile. D'accord, on a tout compris. D'accord, merci Rémi.
Il n'y a pas la forêt, ils ont mal à cultiver les champs, ils n'ont pas les forêts.
D'accord. Professeur Kalambay, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Bon, je reviens d'abord sur la préoccupation de M. Katiaï de Kanyoka. Mais Katiaï... regrette en fait de continuer à vivre dans son village et voudrait aller à Kananga, mais en même temps Katiaï constate que ceux qui sont dans Kananga ou dans d'autres villes souffrent, ils n'ont pas réussi à s'intégrer. Ça c'est également une autre question.
Oui.
La réinsertion en milieu urbain, c'est-à-dire qu'on peut bien vouloir quitter, on quitte chez soi au village où on vivait dans un certain équilibre et on veut aller
on
en
veut
ville.
Aller dans l'essence urbain, oui, et les conditions de vie sont encore de plus
là-bas,
plus difficiles.
Les conditions sont tellement difficiles que se réinsérer dans ces centres urbains n'est pas non plus facile. Ce qui
parce
fait
qu'il y a une certaine pression dans les grands centres urbains. Et qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence, professeur?
Ce qui entraîne comme conséquence, on a d'abord c'est la ruralisation de la ville. Les villes se ruralisent. On a des gens qui viennent des villages qui n'ont pas été préalablement préparés pour vivre dans ce cadre-là. Et quand ils arrivent, ils amènent leur bagage culturel, du village. Mm. Et ils sont obligés, ils ne trouvent pas les facilités pour vivre comme les citadins devraient vivre. Raison pour laquelle vous allez trouver que les gens qui arrivent préfèrent maintenant aller aux extrémités de la ville et construire des taudis ou vivre en plein centre-ville comme si on vivait au village.
Au village, oui.
Ça, c'est la première chose. Donc, on ruralise la ville. Mmh. La ville n'est plus celle qu'elle devait être. Parce que c'est plein de villageois, donc la masse critique devient constituée des villageois. Mmh. Et si vous pouvez le voir dans la ville de Kinshasa, vous verrez quelqu'un qui a envie d'uriner parce que aussi la gouvernance, l'État n'a pas prévu où se soulager. Quand on a envie de se soulager, bon, on va quelque part sur les murs et puis on pisse.
Voilà.
Et puis lorsqu'on a mangé sa banane, on ne sait pas qu'on peut garder ses pots de banane pour pouvoir aller les jeter quelque part, on aura des poubelles. Et quand on arrive avec les villageois, on se comporte comme si on était au village, on a mangé la banane et puis on jette. Quand bien même on est en train de balayer les routes par des compatriotes, et c'est là justement où on a balayé, qu'on met... Donc, je parlais de la gouvernance. On veut bien que les gens se comportent en ville comme il se doit, mais le gouvernement doit également veiller à donner à cette population les infrastructures qu'il faut. Vous voulez qu'on ne jette pas les immondices dans des caniveaux, mais il faut alors mettre
des poubelles,
des endroits où on peut les jeter. Je préfère revenir sur la préoccupation de M. Rémy. Mm. Rémy dit qu'il était au village, il a trouvé que même au village, ça ne marche pas.
Les conditions de vie sont
devenues difficiles. Mais mon cher ami, on doit cesser... Donc, les gouvernants doivent cesser de nous garder, de nous maintenir dans l'économie de la cueillette. On doit arrêter avec l'économie de la cueillette. L'économie de la cueillette, c'est ce qui se passe dans nos villages. Mmh. On pouvait aller dans un champ, dans la forêt, trouver un bananier sauvage et puis recueillir les bananes. Mmh. On pouvait aller et on trouve... un animal, il parle des gibiers et puis on l'abat. On
dit avec l'exploitation forestière, il n'y a plus de gibier. Oui,
justement, maintenant, il faudrait qu'on pousse les gens à faire l'élevage. Il faut pousser et éduquer notre population à faire de l'élevage, à faire de l'agriculture. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait aussi un minimum de conditions. Vous pouvez faire de l'agriculture, vous pouvez élever, mais où est-ce que vous irez vendre ça?
Il faut des routes de dessert agricole.
Ouais. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Quand je parle de la planification, tout est intégré. Tout est intégré. Notre ami Kacha, il dit qu'il veut quitter, par exemple, Kananga, pour, disons, son Kanyuka. Village, pour aller à Kananga. Mm. Vous savez qu'à l'époque, il y avait ce mouvement, on avait créé des conditions, des bonnes écoles en milieu rural, avec des internats. Et il y avait justement des parents qui pouvaient même quitter les centres urbains
ou envoyer les enfants
dans ces internats.
Oui.
Nous avons par exemple le cas des écoles qui forment les agronomes. On a Mbazaboma. Aujourd'hui, on ne parle plus de cette école-là. C'était une grande école qui formait les agronomes à l'époque. Mm. Parce que le gouvernement passé n'attachait aucune importance à l'agriculture. Et donc, toutes ces écoles-là sont fermées. Vous allez à Mbazaboma. Aujourd'hui, on ne parle plus de Mbazaboma. C'était une grande école. À l'époque, on parlait également de Lomé Ndiadi. C'était une grande école non, à quelques kilomètres de Lodia. De l'ICEA Bengamisa, l'ICEA Mundongo. Et donc aujourd'hui, avec l'insécurité, par exemple, du côté de Bengamisa, l'ICEA avait transféré ses étudiants dans la ville de Kisangani. Et lorsque vous formez, par exemple, un agronome en pleine ville, comme ceux qui sont formés chez nous à l'Unikin, ces agronomes qui n'ont jamais vécu au village, et lorsqu'ils terminent, vous lui demandez de rentrer, d'aller travailler au village.
Ils vont pas accepter.
Et ça ne va pas passer.
Alors,
pour que ça puisse marcher, il faudrait, comme se disait Kachai, créer de bonnes conditions de vie dans
nos villages. Là.
Oui, et c'est possible. Et c'est possible.
Quand vous parlez de meilleures conditions de vie, qu'il y ait des infrastructures de base.
Infrastructures
des écoles,
de base.
Des marchés et bien d'autres structures.
Justement, lorsqu'on veut scolariser son enfant, on l'envoie dans cette école. C'est ce que disait Kachai tout à l'heure. Il dit qu'il y a des écoles là chez eux et curieusement, les parents préfèrent envoyer les enfants en milieu urbain. Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent les envoyer en milieu urbain? C'est parce qu'ils estiment que la qualité de la formation qui est décernée aux enfants en milieu laisse à désirer. Et donc c'est tout à fait normal. Et avec ça, il y aura toujours l'attirance vers la ville. Mais entre-temps, quand les gens arrivent en ville, ils ne se retrouvent pas et c'est la criminalité qui augmente.
Voilà. On va accueillir Jules Kazadi de Lubumbashi, Jires et Marc Adéban de Nouville, André Mutombo de Kalemie. Jules, bonjour. Bonjour Jules, vous êtes à Lubumbashi, un peu de mots. Quelle est votre question? Jules, vous êtes là? Il n'est pas là. Jurès et Maka, vous êtes à Bandunduville. Bonjour.
Bonjour Jody.
Alors rapidement, quelle est votre préoccupation par rapport à l'exode rural?
Merci beaucoup de m'avoir d'abord accordé la parole. Donc, permettez-moi d'abord, bon, je n'ai pas suivi le prédécesseur, hein, mais permettez-moi de vous dire que l'exode rural est aujourd'hui l'une des principales causes d'issue de développement et surtout de la pollution environnementale en milieu urbain. Alors, lorsqu'on réglemente, on ne peut pas l'interdire, mais du moins, l'exode rural doit être réglementé et cela va contribuer grandement à la réduction des déchets urbains et cela va aussi contribuer à l'accroissement de la production agricole. Alors, vous remarquerez avec moi que ces derniers temps, comme vous dites, à Kinshasa et dans d'autres villes à l'ouest du pays, notamment ici à Bandundu, et certains derniers alimentaires ont remarqué que leur prix ont pris de la santé. Et c'est là, moi, je crois que c'est le jour du réel qui est à la base de tout ça, parce que la production a baissé. Et le jour du réel fait en sorte que le village est ferme et aujourd'hui, donc, sont vidés de ses habitants. Alors, moi, je pense que la meilleure façon de pouvoir mettre fin à l'exode rural consiste à pouvoir rationaliser l'exploitation des ressources forestières et de pouvoir mettre le paysan dans les meilleures conditions de vie, comme l'a dit l'invité. Alors, quand je parle des meilleures conditions de vie, je veux aussi à l'accès à de l'eau potable. Il est regrettable qu'aujourd'hui, les sources, donc la plupart des sources d'eau sont polluées et les villageois ne savent pas accéder à de l'eau potable. Ce qui fait que pour se mettre dans de bonnes conditions de vie, donc, il doit déménager et aller vivre en ville. Donc, faisant ici, nous pouvons aussi pas mettre fin, mais diminuer quand même l'exode rural.
Merci beaucoup. Merci, Jurès. Et André Mutombo, vous êtes à Kalemi. Nous parlons de l'exode rural en RDC. Quelle est votre question rapidement?
Bonjour, moi, je voulais brosser quand même la situation de Kalemi. Kalemi, depuis 2016, la situation doit dans tout. C'est tous les six territoires qui sont plongés à Kalemi. Mais là, moi, je ne vois pas, c'est les mêmes routes qu'on avait depuis Mobutu. La solution est de stabiliser les coins. Parce que quand on stabilise le coin, là, il n'y aura pas de gode rivage. Parce que quand vous trouvez à Kalemi aujourd'hui, par exemple, l'actuel gouverneur a mis un service de balayage dans les routes publiques de Kalemi. Et vous trouvez presque 80% de la population trop debout de 7 heures jusqu'à 12 heures pour être auprès dans ce service. Parce que si on le sait, si le territoire était stabilisé, c'est tout le monde qui rentrerait au village pour aller cultiver. On ne voit pas d'autres solutions, les moyens, les temps, non, c'est stabiliser tout simplement nos coins et les villageois vont rentrer.
D'accord. Merci André Mutombo. Jules Kazadi, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour M. Jody et bonjour à notre invité. Pour aller vite,
oui.
Donc, avec ce fléau qui gangrène notre pays pendant toute une décennie, le problème c'est quoi? Il y a trois problèmes majeurs. Le premier, le problème sécuritaire. Quand vous allez à l'Est, il y a des mamans, des gens qui veulent cultiver, qui sont au village, qui aiment leur village, mais malheureusement par rapport à la sécurité, les gens quittent leur village pour s'enfourmiller dans les centres-villes. Alors ça pose problème. Et le deuxième, pour aller un peu plus vite, le problème social. Si, regardez à Mbujimayi, Kananga. Donc, si le plan social, les gens sont oubliés avec la MIBA qui ne fonctionne plus, la SNCC, donc tout Mbujimayi, Kananga, Fiel, Lubumbashi. Maintenant, le troisième problème, le problème de mentalité. Même s'il y a plus pour vous déplacer, j'ai suivi notre compatriote qui a dit. Les Congolais ont le droit de sillonner partout, de vivre là où ils veulent. Bien sûr, même en France, il y a les lois, il y a les normes. Hein? Si vous vous déplacez, il faut s'accoutumer avec les règlements de la province ou de la ville que vous adoptez. Donc, le changement de mentalité. Donc, les gens,
oui.
Les gouverneurs,
à lancer les gens, les cantonniers.
D'accord. Merci, Jules. Oui. Merci, Jules. On a retenu vos préoccupations, professeur. À entendre tout ce qui s'est dit, il y a un grand besoin de pouvoir créer des infrastructures, comme l'autre a dit de Calémie, stabiliser le village pour qu'il n'y ait plus l'exode rural. Alors, qu'est-ce qu'on a des gouvernements dans, provinciaux, dans toutes nos provinces, dans les 26 provinces à travers le pays? Qu'est-ce que ces gouvernements provinciaux peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent organiser, par exemple, disons le comptage de la population dans leur province et planifier des activités de développement?
Oui. Il y a le problème, c'est de réfléchir de manière globale. Parce qu'il faut une réflexion sur le développement intégré. Développement intégré milieu urbain, milieu rural. On veut que ceux qui vivent en ville vivent dans de bonnes conditions, que ceux qui sont en milieu rural ne soient pas poussés à venir en ville pour s'y installer. Ils peuvent venir en termes de voyage et puis repartir. Et donc, il faudrait que le gouvernement central avec les gouvernements provinciaux puisse pouvoir réfléchir de manière intégrée. De manière intégrée parce qu'il ne faudrait pas que le Katanga se développe au détriment du Maniema. Et si le Katanga se développe au détriment du Maniema, les habitants du Maniema
vont quitter pour aller au Katanga.
C'est justement ce qui s'est passé avec les deux Kasaï vers Kinshasa, vers le Katanga. Et donc, ça, il ne faudrait pas que chaque gouverneur puisse faire le travail et puis ailleurs, les gens dorment. J'ai d'ailleurs aimé. C'est que le président de la République avait dit qu'il va évaluer tous ses gouverneurs tous les trois mois. Oui. Je salue l'initiative du gouverneur de Tanganyika, mais ça ne suffit pas. On va balayer les routes, tout le monde va venir pour balayer les routes, alors que on veut bien que les campagnes puissent fonctionner, parce que si les ressources humaines qui sont fortes, les jeunes quittent les campagnes pour venir en ville, il n'y aura plus de produits agricoles qui vont venir.
Oui, on a suivi qu'il y a baisse de... Ouais. Les prix, donc, les denrées alimentaires coûtent de plus en plus cher.
Il faudrait donner du travail à ces jeunes gens-là, dans ces milieux-là.
Certains ne veulent plus faire les travaux champêtres.
Ben non. Le problème, c'est la motivation. Lorsqu'on est motivé, ils vont faire le travail. Parce que quand ils viennent en ville, ils ne foutent rien. Et donc, ils préféreraient d'ailleurs rentrer, comme les motards qui sont à Kinshasa, comme à Lubumbashi. Et il suffit seulement qu'ils apprennent que la situation a...
L'AMIBA est maintenant redynamisée.
Oui. Ils vont préférer changer de profession. Parce qu'ils étaient creuseurs, ils étaient commerçants. Aujourd'hui, ils sont dans les transports avec tout ce qu'il y a comme...
Avec tous les risques.
Et donc, lorsqu'on on améliore les conditions du lieu de provenance, on serait également tenté d'y repartir. Et donc, il faudrait que les gouverneurs puissent réfléchir avec les experts qu'ils ont pour sûr comment est-ce que, avec les moyens de bord, avec l'aide de, comme dans notre pays, on parle toujours des partenaires techniques et financiers, avec l'aide de ces partenaires techniques et financiers et du gouvernement central, qu'ils puissent arriver à amorcer des initiatives de développement, principalement développement agricole. Je prends le cas du coton. À l'époque, on avait la zone de Ngandajika, de Kabinda, c'était une zone pratiquement cotonnière. Et aujourd'hui, on n'a plus cette culture-là. C'est comme si les gens ont cessé de s'habiller. Alors qu'ailleurs, le coton, ça fait une grande richesse. Vous allez à l'Équateur, vous avez des cacaoyers, on n'en parle plus. On parle des veillas, on n'en parle plus. Les palmiers à huile, on n'en parle pas. Et donc, c'est tout ça. Lorsqu'on développe ces genres d'agriculture, on développe l'élevage dans ces milieux, les gens vont quitter les milieux urbains où ils vivent dans de très mauvaises conditions. Vendre de l'eau en sachet et passer des journées entières sans manger, des enfants qu'on a ramenés à Kinshasa et qui ne peuvent plus aller à l'école. Lorsque j'avais fait une étude du côté de Miabi, j'ai trouvé un monsieur qui avait aussi fui Mbujuma pour Kinshasa, qui était allé faire l'exploration encore pour rentrer avec ses six enfants, parce qu'il ne pouvait pas payer le minerval de ses enfants à Kinshasa, alors que dans cette zone-là, c'est 1000 francs, 500 francs, et 1000 francs ou 3500 francs par mois. Et donc, lorsqu'on améliore les conditions de vie dans les milieux ruraux, des gens vont rentrer, ils sont à l'aise, c'est chez eux.
Bien, et pour améliorer ces conditions, il faut passer par... il faut qu'il y ait le comptage de la population.
Oui, et ça c'est très très important. Il faudrait connaître l'effectif de la population et connaître le profil des gens qu'on dirige.
Et pourquoi on n'arrive pas à le faire, professeur? C'est un problème de moyens ?
Non, ce n'est pas un problème de moyens.
Ou il n'y a pas assez de démographes qui peuvent le faire à travers le pays ?
Non, vous savez que, pour revenir rebondir sur la dernière préoccupation, le Congo, c'est l'unique pays en Afrique centrale qui forme les démographes du niveau de licence. Le niveau de licence et aujourd'hui le niveau de master et de doctorat. C'est au Cameroun où on a, avec l'IFOD, la formation au niveau de troisième cycle. Et ça date de plus de très très longtemps. Donc les démographes sont au Congo, on n'a même pas besoin d'importer les démographes. Ils sont là et ils manquent même du travail. Mmh. Le problème ici, c'est ce qu'on était habitué à entendre parler de la volonté politique. La volonté politique, c'est qu'on ne veut pas savoir qui est qui dans ce pays. On a tenté de faire on a fait le
plaidoyer. Vous avez soumis des projets au ministère du Plan, ça n'a jamais marché.
C'est vraiment, on parle de la volonté politique.
Oui.
Et en fait, il y a un problème. Le problème, c'est que on ne veut pas planifier les activités dans ce pays. On ne veut pas planifier. On ne veut pas développer ce pays. On a des gens qui viennent avec des slogans. On a des politiciens qui viennent avec des slogans pour distraire le soi-disant peuple. Alors que, en fait, on va dire, laissez-moi utiliser le terme de Monseigneur Mossengon qui parlait de la médiocrité.
Oui.
Et donc, c'est en fait ça.
Maintenant
en fait
qu'il y a une volonté manifeste de changer les choses,
avec
le nouveau gouvernement qui sera mis en place,
nous aurons le recensement. Et sans recensement, on va tourner,
autour
du pot. Et ça, c'est très important. J'invite le président de la République, l'a également dit dans l'interview qu'il a accordée à France 24, au RFI. Il a insisté sur l'organisation du recensement, l'identification de la population congolaise. C'est très ridicule. Lorsqu'on est dans ce pays, on se promène avec une carte qu'on appelle la carte d'électeur et partout, on vous demande la carte d'électeur comme si c'était la carte d'identité. Mais je demande aux gens, mais pourquoi est-ce que vous devez me demander la carte d'électeur? Est-ce qu'on vous avait dit que élire ou être éligible était obligatoire?
Ah, voilà. Merci, professeur Kalambaye, Barthélémy Kalambaye Banza. Je rappelle que vous êtes démographe. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de l'exode rural. Bonne journée.
Merci à vous.